SBS Audio is supported by advertising.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce programme. Nous aurons de la musique, des reportages, des interviews et on commence comme chaque dimanche avec notre personnage de la semaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Aujourd'hui avec Valentine Saboureau, nous allons parler d'une femme puissante qui fait danser la planète en français, s'il vous plaît. Cette chanteuse francophone qui affiche 20 millions d'écoutes mensuelles en moyenne sur Spotify, c'est Aya Nakamura, aujourd'hui au cœur d'une polémique liée aux Jeux Olympiques.
Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes à 3 mois du début des Jeux Olympiques à Paris et on n'en finit plus avec les polémiques. La Seine pourrait ne pas être nageable, les transports pourraient ne pas être accessibles aux handicapés, les punaises de lit pourraient gâcher la fête, mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. En ce moment, l'actu, c'est l'éventualité que la chanteuse afro, rhythm and blues et zouk Aya Nakamura chante lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Pour le président Macron, elle y a toute sa place, mais pour l'extrême droite, c'est une autre affaire. À ce jour, rien n'est confirmé ni tranché.
Aya Nakamura est pourtant l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde.
Et en effet, c'est une star planétaire. Non contente d'avoir été reconnue artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique 2024, elle est celle qui fait danser Neymar, Rihanna et même les enfants de Madonna. Elle a multiplié les collaborations avec des artistes internationaux comme Maluma, Swae Lee, Major Lazer ou Miss Banks. Et on murmure même qu'elle pourrait être présente sur le nouvel album de Billie Eilish. Alors, ultime clash en date, c'est lui qui l'a opposée à Queen Bee en France. Les deux avaient un concert le même soir. Alors, avoir une concurrente de ce calibre, c'est signe qu'on fait partie des plus grandes. J'ajoute que le New York Times ou Forbes lui ont aussi consacré des papiers et que même The Australian vient d'écrire un article sur elle.
Et la chanteuse n'a que 4 albums à son actif.
Ce n'est pas beaucoup, mais elle a commencé jeune. Née à Bamako, au Mali, le 10 mai 1995, elle a passé toute sa vie en France, puisqu'elle arrive à Aulnay-sous-Bois lorsqu'elle est bébé. Baignée par les chants de sa mère griotte, elle écrit ses premiers textes à l'adolescence, partageant son premier titre à 19 ans sur Facebook, Karma.
Oh là là. Ta douce odeur Chanel me fait vibrer comme si c'était la première fois. Engloutie dans tes voix pour un seul baiser de ta part. Est-ce que t'es chaud, renforce ma libido. Baby d'amour, t'as l'air appétissant. Mon cœur est chaud, dis-moi est-ce que tu sens.
Elle ensuite avec Gemal qui fait un carton sur YouTube. En 2016, elle signe avec Warner et lance son premier album « Journal intime » qui devient disque de platine. En 2018, elle sort un single qui paraît dans son deuxième album « Nakamura », tube de l'été en Afrique francophone, mais aussi en Suisse, en Belgique et même aux Pays-Bas. Il cumule aujourd'hui plus d'un milliard de vues sur YouTube. Vous allez tout de suite le reconnaître.
À ce qui paraît, je te cours après, oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Comment ça, le monde est type, tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre, en katana, baby, tu dettes ça.
s'ensuivent un troisième album, Aya, qui est certifié disque de platine 3 mois plus tard seulement, et DNK en 2023. Alors je vous livre ici une critique du Canadien Philippe Renaud pour Le Devoir. DNK a les allures de l'album d'une artiste qui n'a désormais plus rien à prouver. Si lui on reproche un manque d'audace, cette même audace qui agaçait tant à ses débuts, il faudra d'une même souffle reconnaître l'efficacité de sa formule et l'image renouvelée de la musicienne, son assurance tranquille, son sens de la formule et son impressionnante maturité artistique atteinte à 27 ans seulement.
Super ambassadrice franco-malienne, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ?
On lui reproche d'être noire et de ne pas chanter en français. Enfin, évidemment par ce « on », j'entends surtout Éric Zemmour ou Marie Maréchal de Reconquête qu'on écoute ici.
On veut représenter, pardon, mais excusez-moi, la France qui ne chante pas français. Parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français.
Le collectif d'extrême droite Les Natifs l'a aussi invité à retourner à Bamako. Des chanteurs comme Lame ou Patrick Sébastien ont ajouté aux critiques et les réseaux sociaux ont été envahis de messages haineux pour lesquels une enquête est d'ailleurs en cours. Bon, je vous rappelle quand même, et vous vous en souvenez, que pour le bicentenaire de la Révolution, Jessie Norman, une Américaine noire, avait été choisie pour entonner la Marseillaise et qu'Aya Nakamura est française et qu'elle chanterait de l'Édith Piaf cette année. Quant au procès en langue française qui lui est intenté, je laisse le chroniqueur Christophe Barbier en parler. C'était pour Célébdo en mars dernier.
Quand l'Apollinaire débarque avec ses calligrammes, puis quand les surréalistes font leurs cadavres exquis, puis quand le collège de pataphysique bouscule aussi la langue, quand les romantiques avec Victor Hugo ont cassé l'alexandrin, ça a été un scandale monumental. On les considérait comme des punks, des hippies. Et puis maintenant, Victor Hugo, Alfred de Musset, c'est évidemment notre patrimoine.
Alors, sera ou ne sera pas en ouverture des JO, c'est une affaire à suivre. En attendant, Aya Nakamura a été nominée dans 6 catégories aux Flammes 2024. La cérémonie qui célèbre le rap et les musiques urbaines se déroulera le 25 avril prochain au Châtelet à Paris. On pourra aussi la suivre depuis l'Australie en direct sur YouTube ou sur Twitch.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Sans connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre dans une autre ville, on l'estime comme quelqu'un de toujours poli, qu'il soit heureux ou qu'il soit triste. Sans donner d'importance à la chance de voir cet homme.
Les Innocents, un homme extraordinaire, peut-être une de mes chansons favorites en ce moment de notre sélection musicale. Retour donc en arrière avec cette chanson des Innocents. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
À nouveau en studio pour SBS French, Boris Toukas, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Australie. Salut Boris.
Bonjour Marianne.
On va aborder un sujet extrêmement large aujourd'hui. Il vous reste quelques mois à l'ambassade avant de voguer à de nouveaux projets. Alors on en profite, vous êtes à Melbourne, on vous a attrapé pour vous emmener en studio. On voudrait parler avec vous aujourd'hui de la relation franco-australienne. Pour commencer, le développement du réseau en Australie, Boris, et plus précisément, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelles sont les ambitions françaises dans le Pacifique ?
Merci Marianne et merci à SBS de m'accueillir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'avoir ces échanges. L'ambition française en Australie, c'est d'abord l'ambition du président de la République et on parle souvent de l'Indo-Pacifique, mais concrètement pour nous les ambassades et pour les Français sur place, pour la communauté francophile en Australie, qu'est-ce que ça veut dire ? La France et l'Australie sont tous deux des pays de l'Indo-Pacifique, mais dans des positions géographiques et politiques et culturelles très différentes. La France a des territoires à la fois dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, et L'Australie est à la marge de ces deux espaces, de ces deux océans, mais se trouve finalement au centre de la zone. La France a environ 1,5 million de ressortissants qui sont soit dans l'océan Indien, soit dans l'océan Pacifique. Donc c'est une population tout à fait significative. Je crois qu'il y a environ 80 000 Français sur le sol australien, mais c'est un chiffre qui est en forte croissance, notamment avec les visas vacances-travail. Donc c'est une communauté qui va s'agrandir. Et pourtant, on a une francophilie en Australie qui est réelle, un intérêt pour la France, mais en fait cet intérêt est souvent très tourné vers la métropole et finalement on a une connaissance réciproque des territoires qui est assez superficielle, alors même que la Nouvelle-Calédonie finalement est à 2 heures d'avion de Brisbane, c'est le territoire étranger le plus proche du Queensland, donc on a cette incompréhension. Et nous, l'ambition sur le volet coopération, c'est vraiment de parvenir à une meilleure connaissance mutuelle des deux pays, des deux populations, et créer des liens dans le long terme qui ne soient pas purement des liens commerciaux ou techniques ou opportunistes, mais vraiment aller vers la compréhension de l'autre et le développement d'une vision ensemble pour le futur.
Et justement, comment vous engagez avec le public australien ?
Eh bien, en fait, et là pour moi, ça a été une courbe d'apprentissage en arrivant en Australie. Les Australiens sont d'abord intéressés par l'Australie, et on peut faire de l'influence ou faire d'une politique culturelle française en Australie, mais pour intéresser les gens, il faut aussi que ça les concerne. Notre stratégie réseau ici, la manière dont on coopère, dont on fait monter les Australiens à bord de nos activités et la manière d'intéresser le public au mieux, c'est vraiment d'aller faire non pas de la France en Australie, mais du franco-australien partout où c'est possible, que ce soit sur le volet scientifique où on a contribué à la création d'un réseau scientifique franco-australien, la FRAN, qui aujourd'hui regroupe plus de 1000 membres et qui a construit des centres régionaux un peu partout dans le pays. Le dernier a été inauguré pour l'océan Indien en novembre 2023. Mais c'est le cas aussi dans les écoles ou sur le volet linguistique, par exemple, où l'ambassade n'est pas forcément à l'initiative, mais par contre, on va être en soutien d'initiatives bottom-up des Australiens et de la communauté française en Australie pour aider à construire des programmes d'immersion, structurer un réseau et finalement accepter l'idée que les deux pays ont beaucoup à partager sur le plan de l'histoire, mais aussi des valeurs, et que si on veut faire des choses avec l'Australie, il ne faut pas juste les faire en Australie, mais il faut le faire avec les Australiens. Et dans la période plus récente, après notamment la visite ministérielle de décembre 2023, on a vraiment poursuivi cette logique et on l'a assumée jusqu'au bout, puisque deux des projets majeurs sur le volet coopération qui sont issus de cette visite, c'est d'une part la création d'une fondation culturelle franco-australienne, French Australian Cultural Exchange Foundation, FACEF, dont le board est australien, dont les philanthropes vont être en partie australiens, mais qui bénéficient également d'un soutien d'apport de fonds publics français et qui va permettre de construire une dynamique artistique et culturelle franco-australienne. Sur le volet scientifique, le projet majeur issu de la visite ministérielle, c'est le Centre sur la transition énergétique FACET. Et pareil, on a là une association d'intérêts français et australiens, une invitation à participer pour les entreprises. Et on essaie de créer du lien en prenant appui réellement sur le partenaire local et dans le cadre de partenariats. Voilà, pas simplement d'une logique de projection de l'influence ou de la culture française.
Donc là, vous venez de nous présenter les projets concrets mis en place par l'ambassade. Évidemment, il y a parfois des expositions, des événements, des conférences, tout ça. Ce sont des projets à très court terme, ce sont des projets immédiats. Mais si on vous comprend bien, Boris, le but quand même de toute cette coopération franco-australienne, c'est du long terme.
Oui, parce qu'en fait, le lien géographique est réel, le lien historique est réel, mais construire du lien entre les populations françaises et australiennes sur le long terme, c'est pas évident. Et on a beaucoup, effectivement, de projets, notamment dans le domaine culturel, et pour vous qui êtes à Melbourne, on le voit avec la NGV, où, en fait, les liens entre institutions australiennes et françaises peuvent être très forts, mais la question est de savoir comment faire vivre ces liens dans le long terme et comment faire en sorte que ces liens n'intéressent pas simplement une partie de la population très spécialisée sur les arts et la culture, mais l'ensemble du public. Et dans la manière de travailler, on essaie d'intégrer cela, d'intégrer aussi les spécificités australiennes, notamment dans le rapport aux populations aborigènes et du détroit de Torres, par exemple. C'est un enjeu ici. Et donc, il faut savoir comment on va aider à le porter, comment on s'intègre dans ce débat australien. Mais c'est aussi le cas quand on organise des événements de type débat d'idées, comme la Nuit des idées récemment à Melbourne, où l'enjeu n'est pas simplement d'inviter des intervenants français à parler aux Australiens, mais vraiment d'avoir des échanges entre des intervenants français et des intervenants australiens qui chacun amènent un point de vue sur le monde. Et à la fin, en fait, on essaie soit de trouver des nouvelles idées, soit de se rencontrer au milieu. Et finalement, le lien entre les deux pays, notamment dans la région Pacifique à terme, c'est vraiment ce défi-là, pas avoir simplement des logiques parallèles, mais un véritable dialogue qui permet de travailler sur des projets. Ce sera le cas sur le volet culturel, ce sera le cas sur le volet artistique quand on encourage des résidences d'artistes dans les deux pays. Mais ça va être aussi le cas sur un volet, par exemple, scientifique, quand on va travailler avec l'Australie sur des thématiques telles que le changement climatique, les océans, l'Antarctique, voire les sciences sociales. Il y a vraiment beaucoup à faire, mais cela n'émerge pas nécessairement spontanément. Et c'est tout le travail de l'ambassade et toute l'équipe à l'ambassade que je salue, qui travaille dur, que de parvenir à créer ces réseaux et créer ces liens pour finalement faciliter la rencontre entre les peuples.
On va parler des ambitions futures dans un instant, mais avant, si on devait faire le bilan, on est en avril 2024, comment vous mesurez votre succès, si je puis dire? Est-ce que vous êtes satisfait de la coopération actuelle? Et comment vous mesurez votre satisfaction de cette coopération?
Il y a peut-être plusieurs étapes ou plusieurs niveaux d'attente. Le premier, c'est d'abord de parvenir à s'adresser et à correspondre aux attentes de la communauté francophile en Australie, française, d'origine française ou juste, pas française, mais francophile. Et là, on peut prendre l'exemple du Festival du film qui est porté par le réseau des Alliances françaises, que l'ambassade soutient. Et le succès de ce festival qui se dément pas année après année, puisque je crois que la fréquentation est en forte hausse cette année, montre bien qu'on parvient à toucher un public très large, à le fidéliser, à offrir un contenu de qualité en coopération et grâce à des acteurs locaux et des bénévoles, et ce, dans toute l'Australie. Donc ça, c'est un premier point. On a aussi développé spécifiquement des projets qui visaient à toucher un public qui n'était pas nécessairement au départ francophile, mais qui pouvait être intéressé par le discours ou le regard de la France sur le monde. Et c'est le cas avec des événements de type Nuit des idées, où finalement, quand on parvient, après des années de travail, à attirer environ 1000 personnes à la NGV, là, on voit qu'on a touché quelque chose. Et finalement, le troisième défi, et c'est ce qui est vraiment issu de la visite de décembre dernier, c'est notamment le cas avec la fondation FaceSafe sur le volet culturel, c'est comment on consolide des liens culturels, voire comment on arrive à créer des dynamiques culturelles et artistiques ensemble sur le long terme. C'est le défi auquel on s'attelle aujourd'hui, puisque la fondation commence à fonctionner. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de parvenir à découvrir des talents, lever des fonds pour pouvoir financer des activités, et derrière, permettre à des artistes ou des intellectuels ou des scientifiques ou un mélange d'artistes et de scientifiques de travailler ensemble, de créer des projets qui n'existeraient pas sans la fondation, et sur le long terme peut-être d'encourager l'émergence de nouvelles activités. La mesure du succès là, on la verra pas à un an ou même trois ans, on la verra dans 10 ans si on a réussi à créer un réseau de personnes intéressées à la relation franco-australienne, mais qui parviennent aussi à le mettre en œuvre dans leur secteur d'activité propre, en développant de nouveaux projets qui sont directement liés aux échanges franco-australiens.
Alors, je précise que la visite de décembre dont vous parlez, c'est la visite de l'ex-ministre des Affaires étrangères qui s'est déplacé en Australie, en effet, début décembre. Et la Nuit des idées, on en a parlé à plusieurs reprises. Si certains de nos auditeurs ne savent pas ce que c'est ou ont envie de redécouvrir un petit peu ce concept, on a fait plusieurs interviews, notamment avec vous, Boris, et avec certains invités francophones qui étaient présents. Cette année, elle était à Melbourne, c'était le 1er mars. Et toutes ces interviews sont bien sûr à retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french. On parlait des ambitions futures. Boris, on y arrive. Alors bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, mais selon vous, il va ressembler à quoi l'avenir?
Sur le plan très large, les deux pays regardent ensemble vers l'avenir, engagent aussi des partenaires dans la région qui sont les mêmes. Ça va être le cas par exemple avec l'Inde, mais pas uniquement. Et que dans la zone pacifique notamment, on est dans une logique d'intégration régionale où tous les acteurs cherchent à se positionner, y compris d'ailleurs sur la question des échanges entre, enfin, le secteur qui me concerne, les échanges culturels, les échanges artistiques. À Hawaï, en juin 2024, on va avoir le Festival des Arts océaniens qui a lieu tous les 3 ou 4 ans, je crois, mais qui est une rencontre de tous les mouvements artistiques de la zone pacifique. Et en fait, ces logiques les territoires français en sont partie prenante, l'Australie aussi, mais la Nouvelle-Zélande également. Et donc, c'est important de réfléchir ensemble à l'avenir, de pouvoir le construire ensemble et pas simplement d'avancer en parallèle. Donc, à notre modeste échelle, on essaie de contribuer à cet effort et de créer les liens qui permettent aux gens de se rencontrer, de dialoguer et d'avancer ensemble.
Boris Lucas, je le rappelle, vous êtes encore pour quelques mois conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Australie. Merci beaucoup.
Merci Marianne.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et c'était l'impératrice Made Igual, chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois d'avril. Allez, courte pause et on parle deuxième partie de l'entretien que j'ai pu avoir avec le personnel du Cirque du Soleil qui est en Australie en ce moment. Tout de suite après ça.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
On se prépare très petit. C'est un rêve de gamin, un peu le Cirque du Soleil. Vous êtes bien sûr, donc on l'entend, québécois, canadien. Mm-hmm. Le Cirque du Soleil, ça a été longtemps un icône au Canada. Alors je sais pas si ça l'est toujours, mais en tout cas, ça doit toujours l'être, je pense, après le Covid. Mais est-ce que c'était un rêve de petit garçon de se dire un jour je voudrais aller au Cirque du Soleil, ou c'est un cheminement athlétique et artistique qui vous a emmené vers le Cirque du Soleil?
C'est un rêve de petit garçon, oui, mais quand on fait toutes ces étapes-là dans notre vie, on se dit, on sait jamais où on va atterrir dans un sens. Donc, en fait, moi, je me dirigeais vers le théâtre. J'avais déjà un bagage acrobatique et moi, je voulais m'en aller plus vers le théâtre. Et puis, finalement, ça m'a guidé vers le cirque et des écoles de cirque. Ensuite, j'ai fait beaucoup de choses dans cette éthique-là. J'ai fait beaucoup de spectacles de rue, donc ça m'a donner aussi l'amour envers le cirque en général, et puis en faisant des festivals aussi. Donc, c'était vraiment un style de vie cirque. Mm-hmm. Et puis, après ça, c'est là que le Cirque du Soleil m'a proposé de faire partie de leur compagnie. Donc, j'ai fait les créations de ces spectacles. Et puis, oui, c'est sûr, c'est le fait de pouvoir performer à un haut niveau devant une foule de 2500 personnes à tous les jours. Mm-hmm. C'est incroyable.
Qui a la tête en l'air sur vous. Hein.
Qui a la tête en l'air sur nous. Mm-hmm. Mais ça, c'est 2500 personnes, un spectacle. Mais si vous en faites deux, ça fait 5000 par jour.
Oui, oui. Alors, sur un an...
7500, c'est incroyable.
Et ça vous donne encore un peu les frissons quand vous posez 5 minutes, vous y pensez, vous dites
ah, j'en parle, j'ai des frissons.
Ouais.
C'est sûr.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un certain nombre de personnes, mais c'est quand même une énorme majeure partie de ces gens qui sont émerveillés. C'est dur de sortir, je fais pas l'apogée encore une fois, on va penser que je fais la publicité, mais c'est une réalité. Sortir du Cirque du Soleil, quand on ressort du spectacle, on voit jamais quelqu'un qui est là blasé. Peut-être les Parisiens, je sais pas, mais bon, c'est, même les Parisiens, si vous arrivez même à charmer les Parisiens, vous vous rendez compte, c'est incroyable.
Mais c'est ça, c'est que surtout, Lucia, c'est une scénographie vraiment unique. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont fait un spectacle sous chapiteau avec cette nouvelle technique de scène, en fait, qui a été intégrée à, justement, un spectacle de tournée. C'est assez... c'est un gros spectacle. C'est vraiment un très, très gros spectacle au niveau technique. Donc, juste avec la scénographie, la technique du spectacle, les gens sont émerveillés. Plus vous rajoutez de l'acrobatie de haut niveau, puis des gens qui ont... une éthique théâtrale, là, vous avez tout pour émerveiller les gens. Là. Mm-hmm.
Charlie, justement, on a parlé de la logistique, mais sur cette approche par rapport à la technologie, c'est vrai que quand on va voir un spectacle, faut comprendre, mais il y a énormément de scènes, du mouvement, il y a ce côté logistique, mais le côté technologique aussi, ça se passe en haut, ça se passe en bas, ça se passe sur les côtés, c'est penser combien de temps à l'avance un spectacle du Cirque du Soleil, il faut en gros combien de temps pour arriver à une idée, il y a des scénaristes, il y a des écrivains, il y a tous les corps de métier qui rentrent en jeu. C'est combien de temps le cheminement d'un spectacle?
Parce qu'il n'y en a pas qu'un spectacle du Cirque du Soleil, il faut le dire. Il y en a plein de tours.
À travers le monde. Entre le moment où on va décider de mettre un nouveau spectacle sur la route et la première du spectacle, il va en avoir environ entre 2 et 1 an, tout dépendant des processus. Donc, on va choisir le créateur du spectacle. Dans ce cas-ci, c'est Daniele Finispasca qui, lui, son spectacle, ça fait des années et des années qu'il mijote dans sa tête. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, il l'a vécu au Mexique, en fait, et Lucia, c'est un peu une lettre d'amour qu'il rend à la culture mexicaine. Puis à la suite de quoi, lui, il va construire son équipe de créateurs autour de lui, donc maquillage, la mise en scène, les costumes, l'acrobatie, puis ils vont construire le spectacle avec les types d'acrobatie qu'ils vont vouloir intégrer dans le spectacle, à la suite de quoi... Une équipe à Montréal va partir à la recherche des talents qui vont pouvoir composer.
C'est important, ça. C'est peut-être le plus important, quasiment.
Ben, en effet, c'est extraordinaire. On a besoin des gens qui vont être en mesure de faire ça, mais aussi qui ont une dynamique ensemble, qui sont capables de créer les numéros qui vont avoir besoin d'être faits ou de travailler avec des nouvelles technologies. Dans le cas de Stéphane, là, c'est la première fois que son numéro est performé sur des tapis roulants géants. Donc, mm-hmm. on prend une discipline traditionnelle de cirque, puis on l'amène à un autre niveau. C'est aussi ça, la force du Cirque du Soleil, en fait, c'est d'intégrer des nouvelles technologies à la performance humaine qui, à chaque fois qu'un nouveau spectacle arrive en ville, mais il y a un nouvel élément, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu. Donc, c'est un peu comme ça qu'on réussit d'émerveiller avec chaque nouveau spectacle.
D'accord. Et ça, vous le voyez, vous aussi, en tant qu'attaché de presse. Bon, là, les gens sont globalement assez positifs par rapport au Cirque du Soleil. Quand le Cirque du Soleil arrive en ville, c'est un phénomène. Vous, dans votre métier aussi, dans votre corps de métier, qui est pas forcément lié au cirque, hein. Vous pourriez être attaché de presse ailleurs, mais là vous êtes sur le cirque. C'est quelque chose que vous voyez parce que on baigne dans le bonheur, en fait.
Ah, définitivement. Puis c'est d'entendre les réactions de la foule de soir en soir qui changent, mais de culture en culture, tu sais, de voir à quel point les gens vont peut-être pas nécessairement réagir aux mêmes endroits, mais il y a des moments clés dans le spectacle que peu importe où tu es à travers le monde, la réaction va être la même.
Alors j'allais vous poser cette question sur le public en lui-même, peut-être à tous les deux, mais est-ce que le public australien, en gros, réagit comme tout le monde? Il y a différentes attitudes. Il y a un feeling qui est, vous en tant qu'artiste et qui êtes sur scène, hein, tous les soirs. Vous le sentez, ça? Il y a une spécificité. Le spectacle, il a déjà commencé, hein, depuis le 24 mars. Vous le sentez déjà, cette spécificité australienne, ou vraiment ça rigole un peu, ou ça doit rigoler, c'est fonctionnel?
Non, c'est très très général. Comme le spectacle, il est bien rodé. Donc oui, les éléments clés où le public réagit, ils réagissent très bien à ce moment-là. Mm-hmm. Donc oui, on sent ça aussi. On sent beaucoup à la fin du spectacle à quel point ils apprécient le spectacle. Et on sent également aussi les moments où est-ce que les gens, ils sont là et ils font juste regarder, écouter, puis justement, ils prennent cette énergie que nous, on leur donne aussi. Donc, ils sont très attentifs au spectacle aussi. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de vagues, justement, au niveau des réactions.
D'accord. Vous nous rappelez où on peut avoir plus d'informations sur le Cirque du Soleil? Il y a le site Internet. Il y a encore des places disponibles, je suppose, sur la durée. Vous nous rappelez un petit peu comment ça fonctionne?
Donc, on est en ville ici à Melbourne jusqu'au 26 mai. Puis, oui, il y a encore quelques places disponibles pour les prochaines semaines au cirquedusoleil.com.
D'accord. Et à travers l'Australie, est-ce qu'on a un spectacle? On est un programme qui passe à travers toute l'Australie.
Ah, définitivement.
Vous nous rappelez les villes?
Alors, on sera après Melbourne. On s'en va à Adelaide, suivi de Perth, Brisbane et Sydney, donc sur la prochaine année.
Vous, en tant que Québécoise ou Canadienne, c'était aussi un rêve de travailler pour le Cirque du Soleil à un moment ou un autre? On sait que c'est emblématique comme entreprise au Canada, et je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça, c'est une des grosses entreprises canadiennes, grosse success story à travers le monde. Ça faisait partie du schéma un petit peu dans la tête?
Je crois que c'était toujours un peu dans... Là, sans nécessairement comme être, oh, c'est absolument ça que je veux faire. J'ai eu la chance d'avoir des gens dans ma famille qui ont travaillé aussi par le passé. Donc, je pense que ça a un peu tracé la voie de définir où j'avais mm-hmm. envie de m'en venir.
Puis, d'accord. Et vous, en tant qu'artiste, donc vous êtes attelé au spectacle là aujourd'hui. Vous savez, dans votre cheminement au Cirque du Soleil, si vous avez l'envie de faire plusieurs spectacles, ou vraiment aujourd'hui vous êtes dans ce spectacle-là et puis on verra après. Et aujourd'hui vous êtes parti de ce groupe-là. Il y a cette entité de ce groupe-là et peut-être on n'y pense même pas.
Aujourd'hui, je suis dans ce spectacle-ci. J'adore ce spectacle. C'est sûr que s'il y aurait une proposition de d'autres spectacles, j'adore les création aussi. Mm-hmm. Donc, pour le Cirque du Soleil, c'est sûr que j'aimerais bien faire d'autres spectacles si l'opportunité se présente. Mais sinon, oui, en tant que spectacle, j'adore ce spectacle, j'adore les gens sur le spectacle. l'énergie du spectacle, ce que le spectacle me fait vivre à tous les jours, la joie que ça me donne. Donc,
c'est des vraies communautés, hein, les spectacles. Hein. Il y a les gens d'Ovo, il y a vous, et c'est des vraies communautés. Et, bah, vous allez vivre un an ensemble hein, dans un pays comme l'Australie, donc vaut mieux bien s'entendre. Hein, mais bon, voilà, ça reste vraiment des vraies communautés. Vous êtes attachés à votre spectacle.
Ouais, une camaraderie sur ce spectacle, c'est ça, c'est des gens avec qui on travaille, à qui on a confiance à tous les jours, qu'on connaît aussi ce que les gens ils vont faire, comment ils vont réagir sur scène, s'il y a des telles choses, tels trucs qui se présentent qui sont pas prévus.
C'est important.
Donc,
ça.
Donc c'est ça, c'est une bonne connexion, c'est important d'avoir une bonne connexion avec les partenaires que vous avez sur votre sur la scène avec qui vous travaillez.
Donc en fait le spectacle, on va finir là-dessus, mais le spectacle, si moi je vais voir le spectacle un jour A, un jour B, un jour C, il y aura des petites différences parce que bah, il y a une place, pas forcément pour l'improvisation, on va dire, on va pas mâcher les mots, il y a une place pour l'improvisation en fait.
Il y a une place pour l'improvisation, donc vous pouvez voir le spectacle plus qu'une fois, et sûrement que vous allez voir que les moments sont un peu différents aussi, et que l'énergie est peut-être un peu différente selon comment les gens décident de jouer la scène en fait.
D'accord. Donc, okay. Alors Stéphane, on comprend qu'il est là tous les soirs, mais vous, Charlie, vous y êtes tous les soirs aussi. Vous l'avez vu un millier de fois ce spectacle.
Honnêtement, je le performe pas, mais je l'ai vu tellement souvent. Puis ce que j'aime en fait, c'est un peu ce qu'il dit. Ça doit faire au moins une centaine de fois que je vois le spectacle. Et encore, quand je m'assois, des fois, je remarque des nouveaux trucs que j'avais pas vus auparavant. Puis ce que j'aime, c'est dans le chapiteau en fait, peu importe l'endroit où on est placé. On est prêt, on sent la connexion avec les artistes, puis on peut être un peu plus sur le côté, mais voir quelque chose de différent que quelqu'un qui est en avant de la scène ne va pas nécessairement voir. Le spectacle est vraiment fait pour tout le monde, puis nous transporte.
Et vous, dernière question, mais et vous, comment vous vous sentez à la montée en pression, l'heure avant le spectacle? Vous êtes aussi... Il y a aussi un petit peu, alors c'est pas une anxiété, mais c'est un petit peu le trac quand même, parce que bon, vous avez sûrement le trac un peu d'artiste, parce que le jour où on a plus le trac, c'est pas bon. mais vous, en tant qu'attaché de presse, c'est pareil, il y a toujours une petite notion du trac où vous avez tellement confiance dans tout ce qui a été fait que vous savez que ça va bien se passer.
Ah, définitivement, j'ai 1 000 000% confiance en eux. C'est sûr qu'il y a un petit trac, je pense, les premières représentations. À chaque fois qu'on on arrive dans une nouvelle ville, de voir comment le public va recevoir le spectacle. Je sais que étant Lousia, tout le monde va aimer le spectacle, mais il y a toujours cette espèce de petite appréhension où, OK, c'est une nouvelle audience, c'est une nouvelle ville, c'est comme un nouveau chapitre dans notre histoire de Lousia, donc c'est toujours un petit peu spécial.
Eh bien, on vous souhaite pas la bienvenue, parce que vous êtes déjà arrivés, donc amusez-vous en tout cas, profitez de l'Australie, et puis amusez-nous aussi. Merci.
Merci.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'est vraiment toi, téléphone, chanson mythique du groupe de rock français. Allez, si on parlait de la volaille, retour dans nos archives avec une recette de poulet à la provençale. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Gabriel Gatté et le poulet provençal.
La volaille, c'est vraiment un plat qu'on aime beaucoup partager avec en famille surtout, et puis avec les amis, ça plaît pratiquement à tout le monde. Un petit peu comme le poisson. Si, par exemple, on fait une sorte de fricassée de volaille ou un plat comme ça, on a un petit peu d'espace pour l'erreur. C'est-à-dire que si on le cuit un petit peu trop, c'est pas trop grave. Bien sûr, il faut le cuire assez, mais ça, généralement, on le fait. Hein. J'ai très rarement été servi des plats qui n'étaient pas assez cuits, surtout pour la volaille. Les gens ont tendance même à les cuire
un petit peu
de
trop,
mais en fait, ce n'est pas trop grave parce que la volaille se détache de l'os, surtout s'il y a de l'os. Moi, je pense qu'il faut garder l'os. La cuisse, à mon avis, c'est toujours très bien. les deux morceaux de cuisse pour une casserole, pour une fricassée de poulet. Donc là, on va faire un petit goût provençal, parce que ça convient à l'été, avec de la tomate, avec des poivrons. Et là, on commence bien sûr avec 8 morceaux de poulet, hein, assez pour 4 personnes. On assaisonne ça avec un petit peu de sel et poivre. On fait revenir le poulet dans un petit peu d'huile d'olive. On n'en a pas besoin de beaucoup. Hein. C'est bien de garder la peau si on veut un peu plus de goût. Si on veut que ça soit un petit peu plus diététique, on retire la peau. Hein.
Oui.
Ça peut se faire des deux côtés. Si on retire la peau, il faut faire attention de ne pas trop sécher. C'est ça. Donc, on n'est pas obligé de colorer quelque chose comme ça de beaucoup. Il faut juste faire partir le plat.
Le dorer
légèrement, parce qu'en fait, à la fin, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est pas comme un steak. Bon, on veut pas qu'un steak soit bouilli. Oui, c'est ça. Donc, une fois que le poulet est un petit peu doré dans l'huile d'olive, on ajoute un oignon, soit coupé en petits morceaux, soit en tranches. Moi, j'aime bien en petits morceaux, avec une gousse d'ail, et puis avec 2 ou 3 brins de thym citronné. Moi, ça me plaît beaucoup.
Lemon thyme.
J'en ai toujours dans mon jardin. Et alors, moi, c'est vraiment une herbe qui m'inspire beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'odeur. Et pour moi, l'odeur, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça inspire.
C'est très subtil aussi.
Oui.
Mais ça parfume très bien.
Ça parfume et ça marche très bien avec le poisson, avec les légumes, avec le poulet. Donc, on fait ça cuire un petit peu pour que l'oignon commence à devenir un petit peu transparent. Après ça, on ajoute 2 tomates qu'on a coupées en petits morceaux. Il n'y a pas besoin de les épépiner. On peut le faire, mais ce n'est pas nécessaire.
Hein. Il faut qu'elles soient plutôt mûres.
Oui, les tomates, oui, bien sûr.
Parce que normalement, on les aime en salade quand elles sont un peu dures.
C'est ça.
Mais dans la sauce...
Oui, absolument. Il faut que ce soit un peu mûr. Et il faut, c'est mieux quand on achète ces tomates ou si on les a dans le jardin en ce moment de l'année, c'est bien, de les laisser dehors. Hein. Beaucoup de gens les mettent dans le frigo et on les laisse avec les fruits. Et elles ont tellement plus de goût, surtout si on les a eues pendant quelques jours, elles ont continué à vivre. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est bien. Donc, 2 tomates et puis on met 2 poivrons. Moi, j'ai une tendance à les mettre de différentes couleurs, donc un vert et un rouge qu'on a coupé en deux, qu'on a épépiné, qu'on a coupé en petites lanières. On ajoute les poivrons dans tout ça. On couvre avec du papier sulfurisé ou un couvercle. On cuit à feu doux. Environ pendant 20-25 minutes. Et puis, on ouvre la cocotte ou le plat. On voit qu'il y a assez de liquide. On fait évaporer un tout petit peu de liquide de façon à ce que ça ne soit pas comme une soupe, mais on n'a pas ajouté de liquide jusqu'à maintenant.
Ce sont les légumes eux-mêmes.
C'est les légumes qui donnent le goût. Si on veut ajouter un tout petit peu de liquide, un moment de temps, en début de cuisson, on peut ajouter un petit peu de vin blanc. D'accord ? 2 ou 3 cuillerées à soupe ou quelque chose comme ça. Et donc, ça sent très bon. Le poulet est cuit. Juste avant de servir, on ajoute 20 olives. Une vingtaine d'olives, c'est pour 4 personnes. Donc, non, 4 ou 5 olives par personne. Et puis aussi, le zeste, une demi-orange. Moi, j'aime beaucoup le goût de l'orange avec le poivron et le poulet. Je trouve que ça marche très bien. Ça lui donne une petite note exotique. On n'est pas obligé de faire ça. On peut mettre du citron.
Une petite acidité aussi.
Oui, c'est ça.
Mais une acidité parfumée.
Oui, c'est ça. C'est très parfumé. Puis je trouve que c'est très méditerranéen. Et c'est absolument délicieux.
Et il n'y a pas trop de, comment dirais-je, de condiments. Et il n'y a qu'une gousse d'ail. Il n'y a qu'un oignon. Il n'y a que 2 tomates.
C'est vraiment comme on le fait à la maison. Hein.
C'est vraiment
un plat cuisiné
familial.
À la maison. C'est familial. Et puis en plus, si par exemple, on a un gros groupe de personnes, une vingtaine de personnes, c'est
facile,
très faisable. Et puis on peut même le faire le jour d'avant, d'accord ? À mon avis, c'est que ce plat-là est quand même meilleur si on le fait le jour même. Il y en a qui disent le contraire. Moi, je trouve que, bien sûr, ça aura peut-être un petit peu plus le goût des épices et tout ça, mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose de frais d'un plat qui a été fait sur le moment.
Même pour tous les autres ragoûts aussi, qu'on dit en général que
c'est une question d'opinion.
Les ragoûts, on les aime mieux le deuxième jour.
Le deuxième jour. Il y a des plats où ça marche très bien. À mon avis, quand on fait des plats comme le poulet, il y a aussi quelque chose de beau sur la fraîcheur du poulet. C'est-à-dire qu'on ressent la viande qui est fraîche plutôt que la viande qui a mariné, qui est réchauffée. Il y a quand même ce côté de réchauffement qui n'est pas tout à fait aussi frais que quand ça vient juste d'être fait.
Donc, viande blanche contre viande rouge, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bien sûr, si on fait un curry avec plein d'épices comme ça, peut-être que le lendemain, ça a plus de goût. Il n'y a pas de doute. Mais en même temps, c'est bien des fois de rajouter... Par exemple, si je le fais le jour d'avant, je rajouterai les olives
Au dernier moment.
Et le zeste au dernier moment. Je crois que ça fait
un petit
filet d'huile d'olive, si on veut. Hein. Des fois, ça peut vraiment donner quelque chose de magique.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes...
Et c'était Stromae avec Papa Outé, chanteur mythique belge, donc dans le programme en français sur Radio SBS.
Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS, c'est mardi à 13h, jeudi à 13h et samedi prochain à 13h également. Et sur notre site internet, à tout instant, sbs.com.au/french. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.